Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre balade musicale. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Quant à moi, je suis ravi de vous retrouver en ce samedi matin. On est ensemble jusqu'à midi. Au programme, nous avons la très grande chance d'accueillir deux invités qui sont d'exceptionnels chefs de chœur. Joël Suhubiette, à la tête du chœur de chambre Les Éléments, explore depuis plus de 30 ans le grand répertoire choral, du Moyen-Âge au XXIe siècle. Mais cette année, il nous propose une rencontre inattendue avec l'univers du jazz pour son nouvel album Waves of Light, fruit d'une collaboration avec l'excellent pianiste de jazz Paul Lai. Et Léo Varinsky, fondateur de l'ensemble vocal Les Métaboles en 2010, nous offre avec son nouveau disque Singing Ravel des transcriptions originales pour chant choral d'œuvres emblématiques de Maurice Ravel, captées lors d'un concert donné en mars 2025 à la Philharmonie de Paris.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Bonjour Joël Suhubiette.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir dans notre balade musicale sur IDFM Radio. Du répertoire a cappella à l'oratorio, de la musique de la Renaissance à la création contemporaine, en passant par l'opéra, alliante à la rencontre des compositeurs d'aujourd'hui, vous consacrez l'essentiel de votre activité à la direction de vos ensembles, le chœur de chambre toulousain Les Éléments et l'ensemble Jacques Moderne de Tours, dont vous êtes le directeur musical depuis 1993. Depuis 25 ans, vous êtes à l'initiative de nombreuses commandes passées aux compositeurs et compositrices et vous vous investissez à faire rayonner ces œuvres nouvelles au concert comme au disque. Avec ses œuvres d'aujourd'hui, comme avec le répertoire ancien de la Renaissance et du Baroque, comme avec ceux des 19e et 20e siècles, vous avez enregistré plus de 35 disques pour les labels Virgin Classics, Hortus, Calliope, Ligia Digital, Naïve, Mirare et L'Empreinte Digitale. Avec vos deux ensembles, vous êtes présents sur les principales scènes et festivals français et êtes invités dans de nombreux pays d'Europe, ainsi qu'en Amérique, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie. Vous interprétez également l'oratorio et l'opéra avec de nombreux orchestres français comme le Café de Zimmermann, les Percussions de Strasbourg, les Passions, les Ombres, les orchestres des opéras de Dijon et de Massy et l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Et aujourd'hui avec Waves of Light, le nouvel album du chœur de chambre Les Éléments, deux univers différents vont se rencontrer, celui du chant choral et celui du jazz, avec le trio du pianiste Paul Lai dans un programme original. Est-ce un pas de côté, Joël Suhubiette ?
Alors je dirais peut-être pas forcément un pas de côté, c'est pas un écart, parce qu'on est quand même curieux un peu de toutes les musiques, on a fait beaucoup de rencontres avec des compositeurs différents, donc je dirais que c'est une suite logique, mais en effet, c'est quand même, ça nous éloigne un peu du répertoire qu'on a l'habitude de faire habituellement. Donc on peut dire que oui, c'est un petit écart dans le chemin, oui.
Joël Suhubiette, connaissiez-vous le jazz avant de graver cet album ?
Oui, je suis d'une famille où, dès mon enfance, j'ai entendu plusieurs musiques, dont le jazz, parce que mon père est un passionné de jazz. Donc c'est une musique qui m'accompagne depuis toujours et que j'aime beaucoup.
Est-ce que c'est vous qui avez sollicité Paul Lai ? Parce que vous êtes tous les deux originaires de la belle ville d'Orthez.
Oui, nous sommes tous les deux nés à Orthez, en effet, dans les Pyrénées-Atlantiques, pas à la même époque, hein. Paul est plus jeune que moi, mais on a un parcours similaire, on est tous les deux partis à Toulouse, ensuite faire nos études, puis ensuite à Paris. En fait, c'est moi qui ai contacté Paul, j'avais beaucoup apprécié son album Deep Rivers, qui m'avait beaucoup accompagné à l'époque du premier confinement, l'album venait de sortir, et j'aimais beaucoup cet album, et je me suis dit, parce qu'il faisait des références au gospel, à la musique américaine, je me suis dit, oh, ça serait intéressant qu'il y ait un chœur aussi, qui puisse faire des choses avec lui, Et j'ai contacté Paul, et puis de suite, on s'est dit, bah oui, pourquoi pas, fonçons.
Et c'est lui qui a composé la plupart, d'ailleurs, des pièces qui figurent sur ce nouveau disque.
Alors, il a composé pratiquement toutes les pièces, en effet, les 9 dixièmes. Il y a juste une pièce de Purcell que nous chantons, donc une pièce baroque, mais qu'il a continué, qu'il a transformé, dans une deuxième partie. Et il y a aussi une pièce de Jean-Sébastien Bach qu'on a revisitée. Sinon, tout le reste, c'est des compositions de Paul Lai.
En s'inspirant de certains poèmes, d'ailleurs.
Oui, il y a plusieurs langues. Alors, il y a un poème de Victor Hugo, il y a des poèmes de Emily Dickinson en anglais, il y a un poème de Pablo Neruda en espagnol, qu'on chante en espagnol et en anglais d'ailleurs. Donc oui, il est allé chercher dans la poésie.
Alors, nous allons écouter la première pièce qui ouvre votre album, Our Share of Night, qui est vraiment une invitation au partage. C'était une musique belle et délicate. Our Share of Night, de et avec Paul Lai, son trio, et le chœur de chambre Les Éléments, dirigé par notre invité en balade musicale sur IDFM Radio, Joël Suhubiette. Où avez-vous enregistré le disque sorti sous le label Libellule Records ?
On l'a enregistré à Toulouse, au Théâtre de la Cité, qui est une très belle salle en plein centre-ville. Et on a eu la chance d'avoir le théâtre pour quelques jours pour pouvoir s'y installer et faire ce disque il y a un an exactement.
Alors pour un chef comme vous, est-ce une gageure d'intégrer un trio de jazz avec votre ensemble choral ?
Alors je ne dirais pas ce mot-là, je dirais que c'est quelque chose évidemment dont on a peu l'habitude, mais en fait notre parcours nous a amené à faire des rencontres instrumentales, des fois avec des instruments de la musique traditionnelle, beaucoup de percussions, de choses comme ça. Donc finalement, avoir un piano, une batterie et une contrebasse, c'est pas forcément pour nous être dans l'inconnu.
Paul Lai a déclaré quelque part qu'il aimait se mettre le plus en danger possible et accepter tout ce qui peut se passer. Est-ce aussi votre philosophie de chef de chœur, Joël Suhubiette ?
Ben oui, je dirais que ça, c'est quelque chose d'excitant, en fait, se mettre en danger, se mettre dans l'inconnu, donc c'est quelque chose qui nous porte, qui amène quelque chose d'électrique pour tout le monde, et en effet, avec ce programme-là, c'est le cas.
Alors on va justement changer d'atmosphère, une atmosphère d'ailleurs un peu électrique avec Flushing, un morceau sur lequel les chanteurs du chœur de chambre Les Éléments swingent un peu comme le fameux groupe vocal Les Double Six dans les années 50 ou 60.
Oui, on est sur des onomatopées, on pourrait dire ça comme ça, voilà, avec ce programme, et en effet c'est un des morceaux qui swing le plus.
Eh bien, on va l'écouter ensemble sur IDFM Radio, Joël Suhubiette. Flushing, des riffs vocaux pleins de swing par le chœur de chambre Les Éléments, dirigé par Joël Suhubiette, notre invité en balade musicale sur IDFM Radio, avec le trio de Paul Lai, qui en était aussi le compositeur. Dans le disque, vous l'avez dit tout à l'heure, Joël Suhubiette, Paul Lai a rendu hommage à deux immenses compositeurs du baroque, Henri Purcell et Jean-Sébastien Bach, mais avec des relectures.
Oui, en effet, Paul Lai a revisité Bach et Purcell. Dans ces pièces-là, évidemment, le trio de jazz est dans une posture d'improvisation. Nous, on respecte le texte original de Bach ou de Purcell, mais c'est eux, à ce moment-là, qui créent quelque chose, un nouvel univers instrumental là-dessous.
Donc, effectivement, il y a à la fois de la musique écrite et de l'improvisation.
Pour les musiciens, beaucoup. Et pour le chœur, il arrive que dans certaines pièces, il y ait des petits moments d'improvisation ou des moments, comme on peut dire, des fois aléatoires. Construction d'un accord qui se fait sur le moment, mais qui n'est pas forcément écrit.
Voici le thème du chœur de la cantate de Bach BWV 12, composé à Weimar en 1712, Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, les pleurs, les lamentations, les tourments et le découragement, dans la transcription du pianiste Paul Lai, avec Clemens van der Fien et Donald Contomanu, donc bassiste et batteur, et bien sûr le chœur de chambre Les Éléments, dirigé par vous, Joël Suhubiette. C'était un thème de la cantate de Bach BWV 12, revisité par Paul Lai, et le chœur Les Éléments, dirigé par Joël Suhubiette, extrait de leur très beau disque Waves of Light, sorti sous le label Libellule Records. Avez-vous des dates de concert, Joël Suhubiette?
Oui, donc très prochainement, puisque nous faisons cette fin de mois. Le 26 mars, nous serons à Tarbes, à la fête nationale de Parvis. Le 27, nous serons au Festival de musique sacrée de Perpignan. Le 28 mars, nous serons au Théâtre de la Cité de Toulouse dans le cadre de la saison d'Odyssée de Lagnac. Le 29, nous serons au Quorum de Montpellier dans le cadre de la saison de l'Opéra de Montpellier. Et nous finissons le mois à Paris au Théâtre des 10 du Nord le 30 mars. Et nous donnerons ensuite ce programme au mois de juin à Metz à l'Arsenal.
Alors, pour en revenir au 30 mars, le Théâtre des Bouffes du Nord, j'indique à nos auditeurs, il est très facile d'accès au métro La Chapelle, ligne 2, ou Gare du Nord, ligne 4 et 5, ou par le RERB, RERD, et la billetterie sur le site du théâtre, ou au 01 46 07 34 50. Dans votre disque, il y a des compositions de Paul Lai qui sont pleines de sérénité, comme par exemple « Douce incandescence », « La lumière va revenir après les pleurs de Bach », Joël Subiette.
Oui, c'est une pièce à laquelle Paul est très attaché parce qu'il l'a dédiée à un ami contrebassiste qui est décédé. Donc c'est une pièce dans laquelle il a mis beaucoup de je ne vais pas dire de pathos, mais plutôt de tendresse en fait. Et c'est une pièce très douce, on aime beaucoup la faire et pour moi elle est un peu à part dans ce programme à nous faire.
Et le trio d'ailleurs de Paul Lai est un peu dans la continuité de celui de Bill Evans, à qui il avait rendu un très bel hommage il y a 2 ou 3 ans dans un album dont il était d'ailleurs venu nous parler sur IDFM Radio.
Tout à fait, très bel album du trio consacré à Bill Evans.
Eh bien écoutons « Douce incandescence ». Thank you. Douce incandescence, une pièce extraite du magnifique album Waves of Light, née de la collaboration entre le pianiste de jazz Paul Lai et Joël Suibiette, directeur musical du Chœur Les Éléments. On éprouve, on peut le dire, un sentiment de plénitude avec la première référence du nouveau label monté par Paul Lai, Libellule Records. Merci beaucoup Joël Suibiette.
Merci à vous, c'était un plaisir.
Et pour moi aussi, bonne journée et très bon concert.
Merci.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Bonjour Léo Varinsky.
Bonjour Christophe Gavreau.
Je suis ravi de vous accueillir pour une balade musicale dans notre studio d'IDFM Radio. Formé à la direction d'orchestre au CNSMD de Paris, vous dirigez un grand nombre d'orchestres en France et dans le monde. Vous êtes régulièrement invité par l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, l'Orchestre de Normandie, l'Ensemble Intercontemporain. Et votre goût pour la voix et l'opéra vous amène à diriger de nombreuses productions lyriques aux opéras de Nice, d'Avignon, de Toulon, à l'Académie de l'Opéra de Paris et au Théâtre aux Colonnes de Buenos Aires. Et vous êtes le directeur artistique de l'ensemble vocal Les Métaboles que vous avez fondé en 2010, réunissant des chanteurs professionnels investis dans le répertoire pour chœur a cappella. L'ensemble Les Métaboles collabore avec des orchestres et des ensembles instrumentaux en participant à leur saison musicale, avec notamment le Philharmonique de Strasbourg, le National de Metz Grand Est, l'Orchestre de Chambre de Paris, l'Ensemble Intercontemporain et l'Ensemble Multilatéral dédié à la création, dont vous êtes également le directeur musical. Singing Ravel est le 7e album des Métaboles, sorti chez B Records. Citons les 3 précédents qui ont été salués par la critique, The Angels en 2021, dans la tradition des chœurs anglais, Le Moine et Le Voyou, en 2023 dédié à Poulenc et à Cavana, nommé aux victoires de la musique dans la catégorie Meilleur enregistrement, et Hanover Look en 2025, avec des pièces de Phil Glass. Pourquoi ce titre de votre ensemble, Les Métaboles, Léo Varinsky ?
Alors, Les Métaboles, en fait, c'est toujours difficile de trouver un nom pour un ensemble parce qu'il faut que le nom tout de suite se mémorise bien, qu'il retienne l'attention et qu'il exprime aussi quel est le projet artistique derrière. Mon projet, en montant Les Métaboles, c'est de monter un chœur qui soit capable de polyvalence, un chœur qui soit capable de dialoguer entre les époques et les répertoires, de chanter de la musique ancienne, de la musique d'aujourd'hui, et quand même d'avoir une vraie appétence pour la création et la musique contemporaine, puisque je trouve important aussi de défendre des compositeurs vivants. C'est très important de faire vivre cette musique classique que l'on aime tant. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ce nom, qui aussi est un hommage à une œuvre d'Henri Dutilleux, fameux compositeur, qui a écrit une œuvre qui s'appelle Métaboles. La métabole désigne en fait une figure de style de transformation progressive. Et j'aime bien cette idée de transformation qui est bien associée à ces métaboles. Vous avez fait un petit panorama comme ça des trois derniers enregistrements. Vous voyez que notre répertoire va de la musique anglaise à la musique de Bernard Cavanagh en passant par Poulenc ou Phil Glass. Donc je veux aussi mettre en avant par les métaboles toute cette incroyable richesse du répertoire vocal.
Et c'est très bien parce que cette musique dite contemporaine ou d'aujourd'hui sera sans doute, peut-être, en tout cas au moins, la musique classique du 22e, quand on sera dans un siècle ou deux, nous ne serons plus là, mais la musique, elle, restera.
Je l'espère. C'est vrai que très souvent, enfin, dans l'histoire de la musique, on a toujours joué plutôt la musique d'aujourd'hui et c'est un phénomène plus récent que l'on s'intéresse plus presque à la musique du passé qu'à la musique d'aujourd'hui. Alors, c'est vrai que la musique d'aujourd'hui, la musique contemporaine, elle embrasse un répertoire tellement large et des esthétiques si différentes que c'est difficile d'en parler comme d'un tout. Et il est vrai aussi que certaines créations, comme ça se faisait à l'époque, sont parfois vouées à n'être données qu'une ou deux fois et à disparaître parce que peut-être l'œuvre ne rejoint pas le goût du public, parce que l'œuvre est encore trop expérimentale. Mais il est important de donner leur chance à ces jeunes compositeurs.
Alors, Singing Ravel, bon, c'est un compositeur que tout le monde connaît, bien sûr. Votre album contient toute une série de pièces emblématiques, dont une pièce que j'aime beaucoup, Le Jardin Féerique.
Oui, le Jardin Féerique qui fait partie de Mamerlois, le final. Le constat de ce disque, en fait, c'était quoi? C'était se dire, Ravel a énormément écrit pour orchestre, pour piano. Tout chante chez lui et pourtant sa musique vocale est assez rare, sa musique pour chœur. Il a écrit juste 3 chansons pour chœur a cappella et tout le reste de sa musique n'est pas consacré au chœur. L'idée c'était de voir si on pouvait faire entendre Ravel différemment en transcrivant des pièces qui sont connues du grand public pour orchestre ou pour piano et les faire vivre pour le chœur, pour les entendre avec une appréhension, une vocalité.
Le Jardin Féerique, vous le proposez dans une très belle transcription de Thierry Machuel.
Absolument, et sur un texte de Benoît Richter. Alors, c'est toujours la question qui se pose lorsqu'on entame une transcription, c'est de savoir quel texte on met. Le Jardin Féerique, il n'y a pas de texte derrière. Naturellement, il y a un petit substrat littéraire, puisqu'on sait que c'est à partir des contes de Mamerlois.
Et c'est de toujours, Charles Perrault.
De Charles Perrault, exactement. Mais il n'y a pas vraiment de texte qui colle. Et donc, du coup, chaque transcripteur a une stratégie différente. Thierry Machuel appelle un poète qu'il connaît, Benoît Richter, qui est son contemporain. Thibaut Perrine va faire appel plutôt à des textes issus du passé, ou alors va inventer aussi des onomatopées à notre texte, ou alors on reprend carrément le texte de Ravel et puis on le déploie sur une longueur un peu plus grande.
Eh bien, écoutons le Jardin Féerique de Ravel par les Métaboles, dirigé par Léo Varinsky, notre invité sur IDFM Radio. C'était le Jardin féerique de Ravel, dernière des cinq pièces de la suite Mamerlois, par l'ensemble Les Métaboles, dirigé par son fondateur et chef, Léo Varinsky. Pourriez-vous expliquer aux auditeurs la différence entre une transcription et un arrangement ?
À vrai dire, il n'y en a pas tellement. Mais pour moi, l'arrangement n'est pas fondamentalement parler un geste de création. C'est juste de faire passer une œuvre d'un langage, d'un même langage à un autre, en fait. Plutôt d'un instrument à un autre instrument, mais sans travail plus en avant. La transcription, pour moi, englobe une part de création, de créativité, et est un acte de compositeur. Dans les CD Singing Ravel, si vos auditeurs écoutent ce disque, ils vont être peut-être frappés d'entendre comment le chœur sonne différemment. Non pas parce que la musique de Ravel, les pièces changent, parce que le compositeur est toujours le même, mais parce que la personnalité des transcripteurs, compositeurs s'exprime à travers ces transcriptions. Thibaut Perrine, par exemple, qui a fait la transcription de La Pavane pour une infante défunte et du Boléro, est un jeune compositeur arrangeur qui est un grand connaisseur de la voix et de l'orchestre. On sent d'ailleurs qu'il y a une sorte de mécanique dans son transcription qui lui est propre. Quelqu'un comme Clitus Gottwald, qui était plutôt chef de chœur, lui prend beaucoup plus de liberté avec le modèle original de Ravel pour vraiment passer d'un idiome, qui soit l'idiome du piano ou de l'orchestre, à l'idiome du chœur. Et on sent que l'œuvre de Ravel sonne complètement différemment.
Donc il y a une certaine réécriture.
Il y a une réécriture. Donc la transcription pour moi est un geste plus avancé peut-être que l'arrangement. L'arrangement c'est vraiment quand on veut juste faire passer l'œuvre d'un instrument à un autre.
Et quels compositeurs ont fait des transcriptions ? Parce qu'il y en a eu beaucoup au XIXe siècle.
Exactement, la transcription c'est presque un genre à part entière. Et même avant le XIXe siècle,
avec Bach
par exemple, ouais. Il transcrit le concerto pour quatre violons, pour quatre claviers.
De
pourquoi
Vivaldi.
Juste pour le garder une trace et pour pouvoir le jouer lui-même, de Vivaldi, ouais. Exactement. Et donc Handel a transcrit, il s'est auto-plagié lui-même et a transcrit des œuvres qu'il écrivait pour voix, ensuite pour orchestre. C'est une pratique en fait qui remonte à très loin, pour des raisons diverses. Et par exemple Beethoven, donc on va fêter l'année en 2027, Beethoven, de son vivant, a vu un nombre incroyable de ses œuvres être transcrites. Par exemple, il y a des transcriptions de ses sonates pour piano pour chœur. Pourquoi ? Parce que c'était un moyen de diffuser sa musique, c'était un moyen pour les musiciens de faire connaître aussi ce compositeur ou de pouvoir juste avoir le simple plaisir de faire du Beethoven.
Alors, on pense aussi à ses 9 symphonies par Franz Liszt.
Transcrite par Liszt, exactement. Et voilà.
Liszt a fait beaucoup de transcriptions, aussi bien de Wagner, les leaders de Schubert notamment.
Exactement. Donc on voit qu'en fait ce geste de la transcription est souvent un geste d'hommage réel. Et c'est vrai que c'est le plaisir aussi pour les chanteurs de pouvoir chanter cette musique. Quel chanteur aurait pu rêver un jour de pouvoir chanter le Boléro ? Eh bien maintenant c'est chose possible grâce à cette transcription.
On va en parler à la fin de l'émission. Mais revenons pour justement une pièce qui n'est pas transcrite, elle, vous le disiez tout à l'heure, puisque Ravel a très peu écrit pour chœur a cappella, notamment les 3 chansons pour chœur de 1915, et avec les Très beaux oiseaux de paradis, qui est aussi une œuvre que j'aime beaucoup.
Oui, les 3 beaux oiseaux du paradis. Ces 3 chansons de Ravel sont très émouvantes, en fait. Elles ont à voir avec le monde de l'enfance, qui est un monde très important pour Ravel. La fantaisie, l'enfance, a traversé toute son œuvre. On pense à L'enfant et les sortilèges, hein, par
Bien
exemple.
Bien sûr, et sur un texte de Colette.
Sur un texte de Colette. Et là, Ravel a écrit lui-même le texte de ces 3 chansons. Et au cœur de ce triptyque de 3 chansons, les 3 beaux oiseaux du paradis, qui sont écrites, vous l'avez dit, en 1915, année de grande guerre, année terrible en France, et c'est une chanson qui est reliée directement à l'histoire qui est en train de se passer, puisque ces 3 beaux oiseaux, bleu, blanc, rouge, viennent annoncer à la jeune femme qui attend le retour de son bien-aimé qui est parti à la guerre, que son mari, que son bien-aimé est mort. Donc c'est vrai que c'est une chanson qui a l'air comme ça, très belle, très douce, et dont le message est très profond et très triste.
Et avec en soliste une très belle voix de soprano.
Oui, Kaoli Isiki, qui est une magnifique chanteuse d'origine japonaise, mais qui chante absolument merveilleusement bien le français.
Eh bien, écoutons-la dans ces 3 beaux oiseaux de paradis de Maurice Ravel.
Thank you.
Merveilleuse musique de Maurice Ravel, Trois beaux oiseaux du paradis, une pièce raffinée qui porte très bien son nom. Notre invité Léo Varinsky dirigeait son ensemble Les Métaboles, extrait d'un disque magnifique, Singing Ravel, sorti chez Bee Records. Il y a aussi deux extraits de Scheherazade. Alors ça, c'est autre chose, c'est un cycle de mélodies pour orchestre sur des textes du poète Tristan Klingsor qui ont été créés en 1903.
Et oui. Et là, un autre compositeur qui apparaît, c'est Gérard Pesson, très grand compositeur, qui a d'ailleurs énormément fait dialoguer dans sa musique la musique du passé, a fait beaucoup d'arrangements d'ailleurs, ou de réécritures réelles de musique. Et c'est peut-être l'œuvre qui demandait le plus grand challenge, d'une certaine manière, puisque il s'agit en fait d'un triptyque, hein, c'est Scheherazade, pour voix et orchestre. Et donc, il a fallu essayer de faire en sorte que jamais la mélodie qui est dans la l'original de Ravel ne soit englouti par les autres voix et en même temps donner au chœur, autour des voix qui chantent la mélodie, un côté orchestral.
Les amateurs connaissent très bien la version de Régine Crespin avec Ernest Ansermet, qui est une version vraiment de référence et de l'original.
Absolument, si et c'est la version qui m'a bercé dans toute mon enfance. Et c'est d'ailleurs, je pense, le souvenir de ce disque-là qui m'a donné envie de mettre dans ce disque, de proposer cette version de Scheherazade et donc de La Flûte Enchantée ou de L'Indifférent.
Eh bien, écoutons La Flûte Enchantée de Scheherazade dans une transcription du compositeur Gérard Pesson. La musique de Maurice Ravel, c'était La Flûte Enchantée, extrait de Scheherazade, dans la transcription de Gérard Pesson, par l'ensemble Les Métaboles, dirigé par notre invité, Léo Varinsky. Vous avez des dates de concert à nous donner?
Oui, bientôt, nous allons être à Paris, à l'Auditorium du Musée du Louvre, le 15 avril, c'est un mercredi, à 20h, mercredi 15 avril à 20h, pour un programme qui s'appelle Voix sculptée, parce que il est donné dans le cadre d'une nouvelle exposition qui va mettre en regard les œuvres de Michel-Ange et de Rodin. Et donc, j'ai construit un programme qui va mettre en valeur ces deux sculpteurs à travers des musiques françaises et italiennes. Ça va aller du Miserere d'Allegri, fameux Miserere qui n'était chanté que dans la chapelle Sixtine, peinte par Michel-Ange, jusqu'à une nouvelle transcription. On parle de transcription. Il s'agira du prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy. Et le faune est un thème très important chez Rodin. Et donc, on va mettre en regard ces deux sculpteurs à travers ces musiques-là. Donc, une nouvelle transcription. On a eu le défi de transcrire le boléro dans notre disque signé Ravel. Nouveau défi maintenant avec Debussy, le prélude à l'après-midi d'Air Faune. Et ça sera une sorte de création mondiale ce 15 avril à l'Auditorium.
Et pour s'y rendre, pour réserver sur le site du Musée du Louvre?
Sur le site du Musée du Louvre, vous avez un lien. Sur le site des Métaboles aussi, vous aurez des liens exactement. Et donc ça sera à 20h.
Alors, vous avez évoqué le boléro. Évidemment, on ne peut pas quitter Maurice Ravel sans parler de son fameux boléro, composé en 1928, l'une des pièces d'ailleurs les plus jouées du répertoire classique.
Il paraît qu'il y a un boléro toutes les 15 minutes joué dans le monde. Et maintenant que Ravel est tombé dans le domaine public, c'est-à-dire pour les auditeurs qui ne savent pas, mais jusqu'à présent, Ravel était possédé par ses ayants droit, et donc on ne pouvait pas forcément faire de transcription. Et maintenant, on a le droit, et donc je me suis dit, c'est le moment de faire cette grande gageure, un boléro, ce mythique crescendo orchestral, que par les voix.
Alors c'était une musique de ballet au départ.
Exactement, c'était une musique de ballet. Ravel ne savait pas trop quoi faire. Il a pensé d'ailleurs à transcrire d'abord des œuvres de Albéniz. Il n'y arrivait pas. Et finalement, il est parti d'une idée très simple de se dire, il faut que le rythme soit la prépondérance de cette œuvre-là. Et en fait, c'est presque une variation sur un rythme unique, sur un ostinato.
Qu'il avait écrit d'ailleurs ou dédié à la danseuse russe Ida Rubinstein.
Exactement. Et au départ, je pense que Ida Rubinstein a dû être un peu décontenancée par cette musique, mais Ravel a tenu bon. Ce qui est intéressant dans ce boléro, vous savez, c'est que cette mélodie, demandez à vos auditeurs, demandez à quelqu'un de le chanter dans la rue, précisément en rythme, il va avoir beaucoup de mal. Ce thème du boléro qui a l'air si simple en apparence est très compliqué en fait à comprendre. On ne sait pas s'il est dans une mesure à 3, dans une mesure à 4. Il y a le deuxième thème, en plus on connaît bien le premier thème, il y a deux thèmes dans le boléro. Le deuxième est un peu plus jazzy dans sa facture. Et l'accompagnement, la façon dont est harmonisé ce thème, évolue toujours de manière très très impressionnante et de façon très précise et méticuleuse. Et cette transcription pour le chœur, je l'espère, permet de découvrir des subtilités dans les harmonies de Ravel qu'on entend peut-être moins bien quand on a un grand orchestre qui le joue.
C'est une œuvre que vous avez jouée pour terminer votre concert à la Philharmonie de Paris.
Oh oui, et elle termine toujours de manière tellement spectaculaire que le public est emporté. Et c'est incroyable combien cette œuvre, qu'on a pourtant déjà entendue peut-être 10 fois, 100 fois, nous emporte à chaque fois de la même manière. Mais ça, c'est le secret des chefs-d'œuvre et le secret des génies.
C'est magnifique. Pour un souvenir personnel, moi je l'avais entendu dans le grand amphi de la rue d'Assas avec l'orchestre de Paris, dirigé par Herbert von Karajan lui-même.
Eh bien, ça devait être grand.
C'était pas mal. Et quand je dis pas mal, c'est un euphémisme. On va vous entendre diriger les Métaboles dans la fin du boléro et qui a ensuite été suivi par un tonnerre d'applaudissements.
Thank you.
Le public de la Philharmonie de Paris était manifestement enthousiaste à l'écoute du boléro et Léo Varinsky.
Oui, très enthousiaste. En plus, on entend peut-être, vous aurez remarqué dans cette version que les chanteurs ne font pas que chanter. Il y a aussi des percussions corporelles qui se rajoutent puisqu'ils tapent du pied, ils tapent aussi sur leurs mains, sur leur corps, pour rajouter un côté dansé en fait. Parce que vous l'avez rappelé, Christophe, au départ, c'est une musique chorégraphique, c'est une musique du mouvement. Et c'est très intéressant de voir aussi des chanteurs qui commencent à bouger sur scène. Et peut-être le ressentons à l'écoute, je l'espère en tout cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le public le voit et vibre avec nous à chaque fois. Et c'est vraiment une impression que j'ai partagée à tous les concerts du Boléro. Très souvent, lorsque j'annonce qu'on va faire le Boléro pour chœur, je vois des yeux sceptiques en face de moi, des visages un petit peu étonnés, circonspects. Et généralement, à la fin, toutes ces ombres se sont évaporées et tout le monde est enthousiaste.
Je pense que ce sera le cas de nos auditeurs lorsqu'ils se seront procuré votre album « Singing Ravel » paru sous le label B Records. Merci beaucoup Léo Varinsky.
Merci beaucoup Christophe Gravreau.
Très bonne journée et très bon concert.
Merci.
Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain matin, dimanche 11h, pour une nouvelle balade musicale. Merci à Nicolas à la technique et bien sûr, restez à l'écoute des programmes de IDFM Radio.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Bonjour, c'est Christelle. Je vous invite à découvrir Les Secrets de la Servante, votre nouvelle émission culture sur IDFM Radio. Quand la salle de spectacle se vide et que le théâtre s'endort, saviez-vous qu'il reste une petite lumière qui brille ? C'est celle de la servante. Elle veille, surveille, jusqu'au prochain réveil. Dans cette émission, nous donnons la parole à celles et ceux qui, dans l'ombre comme dans la lumière, font vivre la culture. artistes, auteurs, techniciens, experts ou acteurs du secteur. Chaque semaine, La Servante nous livre ses secrets, éclaire l'actualité et anime les coulisses du spectacle vivant. Alors rendez-vous tous les samedis à 16h sur IDFM Radio.
Retrouvez-moi, Benoît, tous les 2e et 4e dimanches du mois de 23h à minuit pour Grabuge, l'émission métal et musique extrême. Partage ma passion, la musique métal. Rendez-vous des métalleux insomniaques de 23h à minuit, les 2e et 4e dimanches du mois. Grabuge pour le plaisir et bien finir la semaine et dégourdir vos oreilles. Grabuge, tous les 2e et 4e dimanches du mois sur IDFM Radio.